want Philly food?
Yeah, let's do it.
Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown.
The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you.
Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 75 du Fly Podcast Fly, épisode nocturne. On a hésité à faire un épisode ASMR. Bonjour à tous. Nous avons gagné deux matchs cette semaine. Nous sommes à 8-0. Et je pense que vous allez vite vous lasser. Mais il y a un concept. Hein. Clairement, on va faire ça sur Twitch en se filmant en train de dormir. On peut faire des millions d'euros. Pour m'accompagner, pour parler de ces victoires face aux Steelers et face aux Texans, Loïc et Grégory. Salut Loïc.
Salut Victor, salut Greg. Je pense que si on fait des millions, ça sera surtout grâce à Greg. Hein, parce que...
et donc, on parlait de millions, justement, parce que Greg tente de nous débaucher avec des salaires à 9 chiffres. Salut Greg.
Salut Victor, salut Loïc. Peut-être qu'on peut faire une sorte de loft ASMR NFL entre connus et pas connus, un truc un peu chelou, quoi. On n'est pas à l'abri. Pour le moment, moi, je vous tiens au courant sur ma commande Super Bowl. Après les jerseys, les t-shirts, là, c'est les bagues que j'ai commandées. Hein. Donc, ça arrive, ça arrive.
Par contre, tu feras attention sur le chèque à 9 chiffres. Tu as mis la virgule après le premier chiffre. Du coup, ça ne fait
pour
pas
vous,
beaucoup.
Mais pour moi, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Pour moi, c'est tout ce qui compte.
Bon, messieurs, c'est vrai qu'on a deux salles, deux ambiances sur ce débrief. On a d'abord le match des Steelers qui a été le meilleur match de la saison. Je pense qu'il n'y a même pas de débat, en fait. On va y revenir, mais une démonstration de Jalen Hurts, une démonstration de A.J. Brown, des touchdowns à tous les cartons. C'est la première fois que ça arrive cette année, si je ne dis pas de bêtises. Une défense qui fait le boulot, 35-13. Ça a été vraiment une démonstration. Et hier, ça a été plus poussif. Mais alors, on en parlait un peu en amont avec Greg. Les matchs du jeudi, c'est absolument une abomination. Donc, on a joué un match digne d'une équipe à l'extérieur un jeudi. C'est-à-dire, c'était pas terrible. Mais alors qu'à la mi-temps, il y avait 14-14, on a accéléré en seconde mi-temps pour gagner ce match avec un Jalen Hurts qui a encore réalisé une belle performance. On y reviendra. Tout comme Dallas Goedert et Miles Sanders. Loïc, je vais commencer par toi. Est-ce que sur ces deux matchs, là je vais commencer par l'attaque, alors on va parler d'A.J. Brown et de sa domination, notamment face aux Steelers, mais là Jalen Hurts, il a presque cimenté sa place sur le podium de MVP.
Ah oui, largement.
Sachant que sur ce podium, je mets du coup Josh Allen et Patrick Mahomes, hein, je pense que tout le monde avait à peu près compris. Mais on est sur une performance, on est d'accord que là, ses progrès en tant que passeur, je veux dire, ok, il y a deux mauvaises passes au début du match des Texans, hein, certes, et tu peux jamais être parfait, il y a toujours une ou deux erreurs par-ci par-là, mais là, il a quand même passé un cap en termes, là, ça fait 8 matchs, et c'est de mieux en mieux, quoi. Il marquait des touchdowns au sol, maintenant, il te marque des 4 touchdowns à la passe. On a une évolution qui est formidable.
Je crois que c'est un record de franchise contre les Steelers. 3 passes de touchdown de plus de 25 yards.
Ouais, c'est possible.
Et du coup, aussi un record de franchise pour A.J. Brown. 3 réceptions de plus de 25 yards, les deux. Non, en fait, c'est... Je crois que ça a été pas mal répété, mais je vais le redire, même si contre les Texans, il perd un ballon, mais sa capacité, surtout cette année, à faire très peu de plays où il y a un risque de perdre le ballon.
Ah bah oui, de toute façon, on a perdu un ballon face aux Texans, c'est que le troisième qu'on perd cette saison. Hein, en
ouais, encore, c'est parce que Mailata se trouve... Hein. Enfin, non,
on est plus tard, mais... On est à plus 15 hein, en différentiel de turnover.
Mais c'est pas le genre... Il fait pas des performances où, comme on peut voir, je me souviens, la semaine d'avant du match des Steelers, c'était Tua contre les Steelers, où les DB des Steelers, ils drop 3 ou 4 interceptions, je crois.
4 interceptions, ouais.
Ouais, alors que là...
Non, il n'y a, fait, y a juste pas d'erreur. Enfin, si, il y a une grosse erreur. C'est le premier touchdown.
Oui,
il ne doit jamais la lancer au milieu de... Et A.J. Brown est couvert par deux joueurs, il ne doit jamais la lancer. Mais ouais, en vrai...
Il est couvert par deux joueurs, dont Minka Fitzpatrick, qui est un des meilleurs playmakers de la Ligue. Donc,
Après, au début de la saison, tu disais à raison que AJ Brown, c'était une arme en 50-50.
Bah, ah, il oui. Mais du coup, oui, en plus, ce touchdown-là, après, ça l'a... On a senti que le premier drive, c'était un retour de bail qu'il fallait mettre en route. Et à partir de ce touchdown-là, ça a déroulé, ça a été quasi parfait. Pour pas dire même parfait.
Bon, Grégory, toi qui avais raison un an avant tout le monde, parle-nous oui. de la progression de Jalen Hurts et de sa complémentarité avec AJ Brown.
Déjà, là, j'écoute. Je suis en train de me faire le replay de ce que vous venez de dire, tellement je l'ai écouté en direct et je me le fais en replay, tellement c'est beau et émouvant. Non, mais après, il se passe sous nos yeux ce que tous les trois, et je pense tous les fans des Eagles, espéraient en début de saison. C'est-à-dire, il se passe le scénario rêvé. Alors, OK, on n'a pas gagné le Super Bowl. OK, on n'a même pas encore gagné la division parce que à 8-0, tu n'as pas encore gagné la division alors que tout le reste, c'est 4-4 dans toute la NFL. J'exagère, je force le trait, bien sûr. Mais il se passe ce qu'on espérait, c'est-à-dire la progression nette et sans bavure de Jalen Hurts. Hier, il montrait les stats sur ses pourcentages de passes complétées. 52, 60, 68 ou 67 des brouettes aujourd'hui. C'est très significatif. Il a un truc que faisait beaucoup Carson Wentz, qu'il avait tendance à faire au début, c'est-à-dire, et là je rejoins Loïc, lancer des balles pour éviter d'être saqué ou d'être provoquer un fumble un peu n'importe comment. Et puis, moi, je vais dire, quand je dis il se passe ce qu'on rêvait, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une escouade de receveurs extraordinaire, un quarterback qui s'est élevé au niveau et donc des armes dans tous les sens. C'est-à-dire que s'il ne l'envoie pas à AJ Brown, c'est Davante Smith. Si ce n'est pas Smith, tu peux l'envoyer à Dallas Goedert qui a fait un grand match hier. Lui, il peut courir. Miles Sanders est une arme au sol et je trouve que c'est ce qui permet aussi de respecter les airs. Il se passe le rêve absolu. Et moi, je ne vais pas réinsister sur Hurts parce que vous connaissez mon amour et je suis content de voir qu'il est, il est aujourd'hui au même niveau dans la discussion qu'un Mahomes et qu'un Allen, qui pour moi est plutôt le vrai MVP, et encore qu'il envoie des saucisses plus que Hurts. Parce que oui, Allen envoie plus de saucisses que Jalen Hurts. Les deux interceptions de la semaine dernière en sont la preuve. Moi, c'est le contrôle du corps, c'est le body language. Je le dis chaque semaine et je vais le répéter jusqu'à la fin. Il y a un leadership, il y a un calme. Tout le monde suit une placidité qui me bute, moi. Voilà.
Non, mais tu vois, moi, je vais aller plus loin. Tu dis, il se passe ce scénario rêvé de début de saison. Moi, honnêtement, mon scénario rêvé de début de saison, c'est que Jalen Hurts progresse. Mais jamais, moi, j'avoue, hein, jamais j'aurais pensé qu'aussi vite il puisse avoir ce niveau-là. Mais je trouve ça assez incroyable. Comme tu dis, beaucoup de bons plays, très peu d'erreurs. Alors, sur le point de drive des Texans, sur la première action, il se déplace mal et il lance deux mauvais ballons sur le point de drive. Bon,
non, mais on en est à chercher non, ça, tu te
c'est
rends compte
ça. Non, mais c'est ça. Et sachant qu'on était jeudi, qu'il était de retour chez lui, donc ça met une pression supplémentaire et tout, et après le premier drive, il a déroulé. Et franchement, aujourd'hui, c'est la force tranquille. Il lance dehors s'il faut lancer dehors. Et je trouve que là où il est intelligent, c'est qu'on lui a reproché, enfin reproché, non, mais on a dit en début de saison, oh là là, il court trop, est-ce qu'il va réussir à tenir une saison entière en se prenant autant d'impact, etc. Ben, il court beaucoup moins.
Mais il court plus.
Non, mais il court beaucoup moins parce qu'on n'en a pas forcément besoin et que ça permet de le préserver. Et du coup, il prend beaucoup moins de chocs. Et moi, je suis beaucoup moins inquiet pour sa durabilité maintenant que j'ai été il y a 4-5 semaines. Donc, tout va dans le bon sens avec lui. C'est ouais, assez incroyable.
Moi, je crois qu'on ne se posera pas la question l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait de nos drafts de premier tour. On n'ira pas chercher
un QB. On se posera des questions, mais on ne posera non, pas la pas question de ce poste-là. Oui, ça, on est d'accord.
Mais après, moi, je me suis en avant parlé, puisque l'exemple qui était pris, c'était Josh Allen. Et en fait, la progression qu'il a, puisque tu en as parlé de son pourcentage passe complété, en fait, il suit la trajectoire de Josh Allen.
Mais on l'avait dit, rappelle-toi Loïc, ouais. On avait dit l'exemple oui. À suivre pour ce type de QB, c'est Josh ouais. Allen.
Mais j'avais dit que Josh Allen était aussi une anomalie statistique, entre guillemets, et ce qu'est en train de faire Hurts, c'est aussi une anomalie, entre guillemets, parce que Normalement,
c'est vrai.
Ça ne progresse pas de cette façon, normalement. Mais c'est très bien.
À un moment où il y a deux anomalies aussi proches, on est en train de se demander si dans le fond, il n'y a pas quelque chose sur le développement des quarterbacks qui a un peu changé.
Moi, j'écoute, je regarde les matchs sur le Game Pass aussi, et donc j'écoute ce que disent les Romo et compagnie. L'autre fois, c'est Tony Romo qui nous commentait sur les Steelers, je crois. Moi, je ne sais plus. Bon, bref, qu'importe.
Et
tous disent, je pense que le quarterback statique dominateur à la Brady, ça s'arrête. Mahomes a ouvert une voie, même s'il y avait eu des McNabb et des Vic en plus chez nous. Hein. Mais je veux dire, là, à la fois coureur, passeur, athlète, super athlète, capable de faire des sneaks, bah, c'est Josh Allen, c'est Jalen Hurts, c'est Patrick Mahomes. Et que tu ne peux plus gagner à moins d'une anomalie inversée, je reprends ton mot, si tu es Aaron Rodgers ou Tom Brady, en fait. Même s'il a beaucoup de blessés, hein, Brady, si tu trouves, il va gagner. Bon, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'évolution, c'est Darwin, quoi. L'évolution, c'est ça aujourd'hui.
Bah, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire que si tu lances aussi bien qu'avant, mais que tu cours mieux, ça ne peut pas faire de mal. Bon, après, c'est vrai que des Brady, il a encore gagné le titre il y a 2 ans. Il y en aura toujours des comme ça. Mais oui, tu le vois même dans le college football aujourd'hui. La plupart des quarterbacks modernes savent courir et sont mobiles. Tu n'en as quasiment plus des statues. La seule statue dont je me rappelle vraiment, c'était Carson Strong, qu'on a d'ailleurs un peu essayé en début de saison. Mais mis à part ça, il n'y en a plus beaucoup. La plupart
tu parles de collège, et ils jouent comme en collège. Hier, c'était frappant. Vous avez compté le nombre de nos huddles. Mais attends, mais c'est un délire.
Les Cardinals et les Eagles jouent exactement des playbooks de college football. Je veux dire,
et ça, tu connais ça mieux que moi 1000 fois, mais pour que moi ça me frappe, alors que j'y connais infiniment moins que toi, c'est que vraiment c'est frappant.
Mais il y a le côté, t'as l'impression qu'ils prennent du plaisir sur le terrain à se dire, allez, on va faire des nouveaux trucs. Ah, tiens, et si on tentait ça? Tu sais, un peu comme un Alabama qui est face à méthodiste, texane, je sais pas quoi, et qui mène 76-0 à mi-temps. Mais c'est vrai que là, honnêtement, moi je trouve que, enfin, on le dit semaine après semaine, mais ça respire une sérénité, cette équipe. Que ça aille bien, que ça aille moins bien, que ça aille machin, ça trouve les
forces. Et franchement, vous avez eu peur hier? Moi, j'ai pas eu peur. Je vous jure que j'ai pas eu peur. Je vous donne ma parole. Je fais pas le mec qui après du truc. 14 partout. Mais franchement, avant, je regardais les matchs. J'étais capable d'être un peu insultant, comme tout supporter, tu vois, un peu tendu. Là, je me dis, on va gagner à la fin. C'est un délire. Peut-être que j'ai tort et que je prendrai le retour de bâton. Je dis juste que je regarde le match et je me dis, on va trouver la solution. Et tu sais pourquoi je pense ça? Et je vais vous donner un nom qu'on ne cite jamais dans les podcasts. Je vais vous parler de Pascal. Le mec, il doit réceptionner 2 ballons ou 3 ballons dans le match. Ils sont toujours bien réceptionnés. Il fait des blocs incroyables. Tu parlais d'état d'esprit. Et bien, tout est respecté. Tous les plans sont respectés. Et je trouve ça fascinant.
Et Pascal, en plus, il est indispensable dans les schémas de bloc.
Ah oui, c'est le meilleur bloqueur. C'est un truc de fou.
Après, quand même, hier, c'est vrai qu'après la première mi-temps, on pouvait se dire, oula, finalement,
t'as eu peur ?
Non, je suis comme Greg. Hein, j'étais pas inquiet.
J'ai pas eu peur, mais à la mi-temps, tu te dis, oh putain, dans quel bourbier on est ? Ça loupe un field goal. Ouais. La défense est incapable de stopper le run alors qu'il n'y a que ça à stopper. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'on va galérer?
Ouais, mais tu te dis qu'on est capable de faire ça. Tu te dis qu'on peut leur mettre 29-17.
Mais après, de toute façon, il y a ce fameux truc de les Eagles, ils ont joué personne, entre guillemets. On a joué Vikings qui sont à 6-1, les Cowboys qui sont à 6-2, mais à part ça, on a joué personne. Mais il y a ce truc, on le voit en NFL cette année.
Les Giants,
c'est aussi dur de gagner des matchs, quoi. C'est dur de gagner des matchs. Il y a plein de grosses équipes qui n'en gagnent pas. Les Chiefs, ils ont perdu face aux Colts. Les Bills, ils ont perdu face aux Dolphins.
Les Bills face aux Jets ?
Non, Dolphins. Non. Dolphins.
Dolphins, pas pour moi.
Les Jets, ils les affrontent ce week-end. Mais pour le coup, je trouve que cette capacité à gagner dans l'adversité... Moi j'ai eu... je dois avouer que j'ai eu un peu peur au 14-0 de Jacksonville parce que je me disais, quand même 14-0, il pleut, c'est un temps de merde. Bon, ça peut être compliqué. Là, je suis assez d'accord avec toi. En plus, bon, c'était Houston en face qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Mais je n'étais pas particulièrement inquiet. Je savais qu'on finirait par réussir. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Le moment où on a renversé le match, c'est le moment où on a repris l'avantage des turnovers. Comme on le fait, à chaque match, puisqu'on est à plus 15. Il n'y a pas un seul match où on est à zéro, hein, ou en négatif au niveau de turnover. On est toujours en positif. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous vouliez parler d'Edgy Brown qui a fait un match fabuleux sur Steelers, mais ça peut aussi être une transition sur cette défense, sachant qu'on pourra revenir aussi sur Edgy Brown. Hein. Mais il y a deux joueurs dont je voulais parler. C'est CJ Gardner-Johnson qui est en train d'exploser. Hein. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment le pur safety. C'est, tu regardes toutes les interceptions, il n'y en a aucune où c'est un vrai play de sa part. C'est juste que ça fait partie de ces safety qui sont toujours là, au bon endroit, pour venir choper le truc. Et c'est un talent, ça. C'est un talent. Et Javon Hargrave, qui est de retour. 5 sacs en 2 matchs, Loïc, je dis pas bêtise. Enfin, et encore une fois, moi, alors, il y a un truc que je ne m'explique pas, mais je sais que je me répète là-dessus, mais c'est, franchement, je suis sorti du match des Texans, je me dis, oh là là, on n'a pas bien défendu. Je pense que Gannon a été out-coaché. Je pense que les DB étaient trop loin, que notre gestion de la boîte était mauvaise, etc. Et tu te dis, mais attends, on a pris 17 points, quoi. C'est-à-dire que je suis en train de me plaindre que c'est mauvais, que c'est machin, que c'est truc. On a pris 17
points. Ce que j'arrête pas de vous dire quand vous êtes en direct, parce qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une conve où on se parle, et que vous faites ça en direct et que je deviens la sagesse alors que j'étais la panique. Ça va pas du tout, les gars, je vous le dis. Hein.
Non, mais depuis la week one, enfin, du coup, sans compter du coup de match des Lions en week one, le maximum qu'on ait pris, c'est 21 par les Jaguars. Et après, c'est 7, 8, 17, 17, 13, 17. Alors d'accord, on n'affronte pas des foutes de guerre, là encore, blablabla, blablabla. Mais c'est cette défense, il faut avouer qu'elle plie souvent, elle prend des yards, etc.
Bah, hier, elle a eu du mal contre le run. Hein.
Oui, mais elle
contre la course hier, c'était un peu pénible.
Hein. Ouais, elle s'est fait marcher dessus, même.
Ouais, mais sauf qu'en zone rouge.
En première mi-temps, non, ça a été horrible. On prend 14 points, on s'est marché dessus. Bah oui, mais contre la pire attaque de la ligue. Les mecs avaient quoi?
Ouais, mais alors, tu vois, je suis d'accord, mais t'as raison.
Il y avait qui en face?
C'était
des no-name, les receveurs.
Pas mal. Ouais, mais par exemple, les deux touchdowns qu'ils mettent, c'est un très beau drive, le premier. Et le deuxième, il est sublime, hein, leur deuxième.
Non, mais c'est pas grave.
Il y a deux punts de touchdown, moi, ça me choque pas. Après,
c'est un manque d'agressivité. Le mec, en fait, Gannon, il a fait son plan de jeu classique, en mode, je veux pas prendre de big play, je rush à 4, et voilà.
On n'en prend pas, hein. Après, on prend pas de big play. T'as noté qu'on prend pas beaucoup de points aussi, ouais. Parce qu'on garde, on mange le chrono même en défense.
Je suis d'accord.
Mais là, le problème, c'est que tu jouais contre. Il n'y avait pas de receveur en face. Tu n'avais ni Brandon Cooks, ni je sais plus comment il s'appelle, Nico Collins, le deuxième, je crois.
Oui, mais bon, c'est, les noms, ça fait rien. L'autre fois, il y avait Mika Parsons, on a joué contre des gros défenseurs. Bon, on attend.
Mais non, mais là, tu vois, s'il y avait une opportunité d'être agressif, même de blitzer justement pour aider contre la défense, contre la course. C'était ce match. Et non, Gannon, ah non, j'ai peur, je ne veux pas.
Non, mais on le critique alors que le mec va être dans la ligue des meilleurs coachs défensifs et va trouver un poste de head
coach. Ouais, mais on a le droit
de prendre. Attends, je vais prendre la défense de Gannon. C'est suffisamment rare pour le signer.
Oh merde alors. T'es malade,
Oui, son plan de jeu était mauvais. Oui, il s'est pris une gamelle en première mi-temps, certes, c'est vrai. Sauf que, faut avouer que, comme face aux Vikings, comme face aux Commanders, comme face aux Cowboys, comme face aux Steelers, les ajustements de deuxième mi-temps marchent.
Tout le temps. Comme Sirianni le fait. On a des coachs qui savent s'ajuster.
Moi, je suis désolé, mais c'est quand même... Ça devient une tendance de fond. Parce qu'on prend combien? On prend donc 3 points contre les Texans. On prend 3 points contre les Steelers, je pense. Bon, les Cowboys, il y a ce retour, OK, mais en fin de match, on fait le boulot. Je trouve que cette défense, globalement, elle s'adapte, quoi.
Je pense que surtout le plus gros changement sur les deux derniers matchs, c'est comme tu as dit, c'est Hargrave. Ça fait toute la différence. Rappelle-toi ce que tu disais, Victor, sur les premiers matchs, qu'on avait le pire duo de tackle, de defensive tackle titulaire de la Ligue sur les premiers matchs.
Bah oui, parce qu'on s'obstine à mettre Cox titulaire. Donc.
Et Cox a encore été mauvais hier.
Bah, ah, il est 14. Bon, faut, non, mais, il n'y a plus rien à sauver. J'aime d'amour, mais là...
Franchement, en fait, vous étiez en train d'espérer qu'il se blesse. Vous auriez aimé qu'il se blesse
normalement. Non, je souhaite la blessure de personne. Sauf un certain D. Watson, mais ça, c'est...
Oui, D. Watson, on lui souhaite tous les ligaments croisés de sa vie. Non, mais c'est juste que moi, Cox, je pense qu'il y a un moment, même sans Jordan Davis, alors c'est vrai que ça fait chier qu'il soit absent 4 semaines, 4-6 semaines, mais même sans Jordan Davis, tu peux donner des snaps à Milton Williams, tu peux donner des snaps à Tuipulotu.
Ouais, bah alors lui, il s'est retrouvé sur le cul un nombre de fois.
Tu peux mettre Graham au centre et mettre Quinn.
C'est un peu notre point faible hein, quand même. Si on cherche un point faible, il est là hein, chez nous. Hein.
Bah ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'on s'obstine à mettre Cox alors qu'on a des solutions à côté.
Franchement, j'ai regardé en première mi-temps, je prêtais attention et le nombre de fois où c'est arrivé qui a dû venir couvrir le fait que Cox il se faisait balader par son lineman offensif ou le double marquage. Ouais, Hargrave a fait un énorme match et je pense que c'est bon ça. Il est lancé, sa blessure qu'il avait au camp d'entraînement, elle est derrière lui.
Ouais, il est vraiment
fort. Et ça fait une très, très grosse différence.
Et il donne de l'énergie, en fait. Tu as envie de le suivre. En fait, il fout la trouille, quoi, au mec en face. Hein.
Ah bah, lui, plus ce Sweat et comment il s'appelle, Reddick sur les edges.
Reddick, à un moment, il fait un plongeon. Il fait une deflection assez incroyable. Là. Vous avez vu quand il s'allonge à l'horizontale là.
Non, mais il est en couverture dans la red zone.
Si même lui commence à faire ce genre de truc en couverture de passe, c'est ridicule. Enfin, ridicule dans le bon sens du terme, tu vois. Enfin, c'est...
En vrai, je vais vous dire, quand je vois ce genre d'action, je suis presque aussi heureux que sur une passe de touchdown. Mais je vous assure, hein, c'est un truc de fou. Hein.
Franchement, c'est un super play, mais il n'aurait pas dû être en couverture à cet endroit-là.
Non, mais je suis d'accord. Mais encore une fois, moi-même, sur le global et même sur cette défense, par exemple, hier, Maddox est mauvais, Epp c'est mauvais, etc. Ouais. Mais honnêtement, franchement, je suis le premier à être un peu critique des mauvais matchs, des machins et tout. Mais on le répète encore une fois, les matchs du jeudi sont une telle abomination.
Non, c'est une honte. C'est
que moi, je n'ai même pas envie d'en vouloir aux joueurs qui sont mauvais le jeudi, en fait.
Non, mais c'est une honte. Moi, franchement, je comprends le côté économique et de mettre de la NFL quasiment toute la semaine. Mais c'est comme si tu faisais un match de rugby 3 jours après avoir joué le dimanche soir. C'est une honte. En vrai, c'est une honte. Et il y a un match, depuis là je me suis amusé à regarder. Là. Tout à l'heure, j'étais avec les potes de l'équipe NFL, on parlait de ça. Et à part le match des Cardinals, je crois que tous les Tuesday Night c'était horrible. Et Thursday.
Il y a le match d'ouverture, mais c'est pas vraiment un Thursday Night parce que par définition ils ont.
Non, c'est le match d'ouverture. Non, mais les mecs peuvent pas en fait. Tu peux pas. En fait, c'est simple. C'est un sport dans lequel tu peux pas jouer tous les 4 jours. Non, enfin, la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est ça.
Non, mais
et,
c'est sûr.
Et donc.
Surtout pour une équipe qui se déplace comme les Eagles à travers tout le pays quasiment. Donc tu joues le dimanche. Lundi, t'as lundi, mardi pour t'entraîner entre guillemets, mais en fait tu te reposes. Mercredi, t'es dans l'avion. Jeudi, tu joues.
Bah, lundi, t'as très très mal. Mardi, t'as très mal. Mercredi, t'as mal et t'es obligé d'y retourner, quoi.
Mais c'est exactement ça, c'est ce que m'ont dit nos consultants. Ils nous ont dit, le jeudi, tu rêverais d'être encore dans la glace, en fait. Il ne faut pas se tromper. Hein. Mais je trouve que c'est une aberration. Alors là, on dit ça parce que ça nous tombe dessus, mais il suffit juste de voir que les matchs ne sont pas bons, quoi, en fait, le jeudi. Et ce qui serait intéressant, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais voir s'il y a plus de blessures aussi. Mais franchement, ça me bute, quoi. Ça me bute.
J'allais y venir que... Une autre très bonne nouvelle, c'est qu'on sort du Thursday Night sans blessé. Enfin, bah Maddox qui est blessé, mais Maddox, apparemment pas très grave. franchement, ça, c'est la super bonne nouvelle. Hein. Et on le dit, hein, il y a le fameux bus qui est une statistique d'impact des blessures sur les performances des équipes. Cette année, on est largement premier.
Mais c'est pas nous, on passait notre temps depuis à dire qu'on était toujours des blessés. C'est pas normal.
Il y a quand même un changement de
coaching.
Ben ouais, Sirianni, quand il est arrivé, il a dit on reprend le dernier jour possible. On allège les entraînements à deux tiers.
Les vétérans ne s'entraînent pas le mercredi.
Les vétérans ne s'entraînent pas le mercredi, voire pas le jeudi, s'ils sont vraiment fatigués. Enfin, il y a vraiment une. On s'entraîne très peu. Hein. Je pense qu'on est une des équipes qui s'entraîne le moins de la ligue.
C'est pour ça que le premier match, c'est pour ça même le premier match et là les deux matchs de retour de bail, on est en galère sur les plaquages parce que.
Ouais, c'est vrai.
À mon
vrai.
Avis, on doit y aller mollo aux entraînements comparé à d'autres équipes. Hein.
On va dire, hein, c'est le truc qui rend fou dans cette défense. On est incapable de plaquer. Quoi.
Il y a un moment, là, quand il fait sa percée, quand Pierce il avance, il fait de l'auto-tamponneuse. C'est-à-dire qu'en fait, il vient, je ne sais plus qui lui met un coup d'épaule.
C'est Garner Johnson tomber. Qui, au lieu d'attraper, veut lui mettre un hit stick et se fait bouger. Mais par contre, il ne doit jamais mettre un coup d'épaule, il doit juste s'entourer. Enfin,
ouais, mais ils l'ont tous fait, ça. Mais puisque tu parles de Garner Johnson, quatrième match d'affilée avec une interception.
Interceptor de NFL.
5 interceptions.
Il avait 5 interceptions avec les Saints. Il arrive chez les Eagles, il a déjà fait 5 interceptions.
Mais c'est.
Et alors, est-ce que ça se prolonge, ça du
moment. Pour moi, ça se prolonge, mais ça va coûter très, très cher.
Ça va coûter cher.
Je pense qu'on est à plus de 15 millions par an.
Mais 15 millions, oui, mais si tu prolonges en tant que safety, ça te coûtera 16-17. Si tu prolonges en tant que cornerback, ça te coûte 20. Donc.
C'est pas un cornerback, il joue safety. Hein.
Non, on est d'accord, mais j'avais regardé les most well paid safety, puisque je pensais à l'autre incapable de Jamal Adams. Mais en fait, il y a Derwin James qui a signé 19 millions et Minka Fitzpatrick qui a signé 18. Mais bon, eux, ils sont un peu au-dessus du lot. Moi, quand je vois des Buda Baker, Eddie Jackson et tout, qui sont à 14, 15, 16. Je pense que c'est là-dedans qu'il est. Et en soi, ça ne me choque pas non plus. Hein,
Apparemment, tu ne peux pas avoir que des coups sur un an pas cher et des rookies et des quads. Parce que là, moi, je salue tout ça, mais il va falloir, à un moment, ils vont te coûter cher, tes mecs. Hein,
et puis, à un moment, on disait, il faudra prolonger Garner Johnson ou Bradbury, mais on n'aura pas l'argent pour prolonger les deux. Honnêtement, moi, je prends Garner Johnson parce que je pense qu'il apporte une vraie stabilité au poste de safety et que Bradbury, il est un peu en galère. En galère gentille. Hein. Il fait quand même son
interception. Il prend une longue passe hier.
J'ai convaincu Victor.
Il prend une longue passe. Il prend, contre les Steelers, il prend une longue passe, une interférence et une autre faute. Je ne sais plus ce que c'est.
Après, franchement, par rapport à ce qu'on a vécu les 10 années.
Ben oui, voilà. Franchement, non, c'est un super CB2.
Un super CB2. Mais par contre, s'il veut être payé comme un CB1, ça ne sera pas chez nous.
Pour moi, c'est marrant parce qu'il aura 30 ans et on l'a vu aux Giants et aux Panthers. Il n'a jamais fait deux très bonnes saisons d'affilée.
Il a toujours été bon dans les contractures.
Ouais, c'est ça. Il va faire une très bonne saison et une moins bonne, voire mauvaise. Une bonne, une moins bonne, une mauvaise. Il est inconstant. Donc, franchement, comme. Solution d'urgence pour l'année, c'était top. Mais après, je pense qu'il faut. De toute façon, la NFL, il faut bien comprendre que tu ne peux pas garder tout le monde. Il faut savoir renouveler ton effectif en permanence. Il faut savoir laisser partir des joueurs.
Et même, regarde les Buccaneers, qui ont été la première équipe de l'histoire à garder les 22 titulaires après leur titre, ils n'ont pas regagné le titre pour autant. Donc, comme quoi, le renouvellement dans un effectif, c'est important aussi.
Est-ce qu'on peut juste dire un mot ? Pardon, vas-y, Loïc.
Je voulais juste ajouter. Nous, on l'a vu quand on a gagné le Super Bowl. Je pense que, il a dû bien le voir. L'une des erreurs qu'il a faites,
c'est de garder tout le monde.
Ouais, c'est de ne pas assez renouveler l'effectif, et en particulier avec des jeunes, des choix de draft. T'es obligé. De toute façon, la NFL, c'est tellement compliqué, tellement physique, qu'on le voit avec les Bucks. Si tu gardes que des vétérans, au bout d'un moment, ils explosent physiquement, mentalement. Il faut renouveler tout ça, du sang frais en permanence.
Je t'en prie, je sais bien qu'on était en défense, mais comme le temps avance, tout ça, j'aimerais quand même saluer, et j'en ai parlé très rapidement en attaque tout à l'heure, mais vraiment, Dallas Goedert, bien sûr, parce que c'est un putain de tight end, il est top 3 tight end aujourd'hui pour moi de la NFL. avec, avec Kelsey notamment. Je voudrais saluer Miles Sanders. Voilà, parce que vous étiez pas, vous passez votre temps à me dire il fait des ronds, il part dans la ligne de touche. Bah excusez-moi, depuis que Loïc a gueulé, il a dû écouter Fly Podcast Fly. Il va beaucoup plus tout droit, il fait beaucoup de courses qui ramènent beaucoup de yards, il marque beaucoup de touchdowns et il ne fait aucun putain de fumble.
Alors ce que tu dis est vrai. Moi je trouve qu'il s'est amélioré, mais il a quand même un problème de vision. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, mais il y a un simple cut à faire et il a une allée. Et non, en fait, il s'obstine à aller dans ce qu'il a décidé initialement.
Je pense que s'il avait la vision d'un Nick Chubb aujourd'hui, ce serait un top 5 running back de la ligue.
Ah, je pense qu'il aurait des stats, mais.
De fou.
Totalement incroyable. Je pense que déjà là, il a des. Là, je suis d'accord qu'il a des très. Il a des bonnes, voire des très bonnes stats, mais je pense que si il était capable d'améliorer un peu sa vision. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Il aurait des stats, mais monstrueuses.
Mais tu te dis que...
Moi, je le trouve quand même bien efficace. Il a des super mains. Il avait des mains beaucoup plus, moins fiables avant, hein, franchement. Il n'y a pas un ballon qui tombe sur aucun de nos trois coureurs. Hein.
Non, mais bon, c'est sûr. En carrière, il fait 5,1 yards de moyenne. Il est très bon, tout ça, pas de problème. Bon, un peu trop de fumble, etc. Mais
pas cette année.
Non, pas cette année. Et il y a toujours ce truc un peu étonnant, par contre, c'est ses receiving yards. Donc, 509 en tant que rookie, 197 en 2020, 158 en 2021 et 42 en 2022. Donc,
Mais et c'est plus une option. Tu as tellement de super receveurs et un gros tight end. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Tu lui donnes la balle.
C'est pas que lui, c'est les running backs en général qui ne sont pas du tout utilisés comme receveurs. Enfin, qui sont pas, en tout cas, ne catchent pas le ballon.
Mais combien, parce qu'en fait, combien il y a préfère... des... Ouais, vas-y.
Juste, en fait, nous, chez nous, les screens, ça va pour Goddard.
Ouais.
Non, mais je suis d'accord. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette équipe, elle a une identité au sol qui est redoutable. Les deux premiers touchdowns qu'on met, là, donc Sanders et Gainwell...
Et off.
C'est une quatrième tentative et une troisième tentative, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on est souvent en 3 et 4, 3 et 5 pour les market touchdown, tu as plein d'équipes qui se disent, bon, bah là, on abandonne la course, on y va à la passe. Ben non, nous, on dit, attends, c'est notre identité, c'est la course, on va y aller comme ça, hein, et tu nous laisses passer, merci, au revoir. C'est assez fascinant. Et du coup, je suis très intéressé de savoir qui sera le running back qui continuera ce qu'est en train de faire Sanders. Running back qu'on draftera au quatrième tour, hein, puisqu'on ne prolongera pas Sanders, puisqu'on ne prolonge pas un running back.
Quelle horreur d'entendre ça.
Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait Dan Brugler.
Il me dégoûte.
Il y a Dan
J'ai
Brugler
envie de vomir.
Il y a Dan Brugler de The Athletic, qui est un des mecs les plus connus en termes d'analyse et tout. Et on lui a demandé c'est quoi votre conseil à draft concernant le poste de running back. Il dit, vous draftez. Il dit, moi, je suis pour drafter un running back au premier ou au second tour parce que vous avez un prime pendant 5 ans et après, vous le jetez et vous refaites pareil.
Mais il y a ça, quand même.
Ben non, mais le problème, c'est que la durabilité d'un... Enfin, aujourd'hui, donne-moi 3 running backs qui ont été bons après une prolongation de contrat.
Henry,
ok. Et encore, il a opé tout à sa dernière solution.
Ouais,
mais Henry, ok. Mais après, tu regardes Ezekiel Elliott. Enfin, je veux dire, attends.
Ezekiel Elliott n'est même pas le meilleur running back de son équipe. Donc, il continue à le faire jouer.
On va s'amuser.
Chubb, non.
On va s'amuser. Qui sont les Chubb, running backs les mieux
Chubb.
Payés de la ligue?
Il y a Chubb. Attends. T'as Henry et Chubb.
D'accord, mais Christian McCaffrey. Bon, il a été blessé quasiment 2 années.
Non, mais arrêtez, c'est un génie.
Mais il est blessé 2 années sur 4 de son contrat. Alvin Kamara, il s'est un peu repris la semaine dernière. Enfin, c'est un fantôme depuis le début de la saison. Il n'avait pas marqué un touchdown, mais il est tout le temps blessé.
Il va être suspendu.
Ezekiel Elliott, il est cramé. Dalvin Cook, il est inconstant. Henry et Chubb, c'est bien, ça d'accord. Joe Mixon, inconstant. Saquon Barkley, j'adore, hein, il fait une super saison, mais et encore lui, c'est... il est sous son contrat rookie, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, 5e année, je crois.
Tu te rends compte que parce qu'il a été pris 2e à la draft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est 9e coureur le mieux payé de la Ligue. C'est dire si les mecs ne payent absolument pas les coureurs. Le mec avec un contrat rookie est top 10. C'est incroyable.
Mais il est en 5e, après, il est en 5e année. Hein.
Ouais. Après, si tu en fais l'analyse, Victor, j'imagine bien évidemment que les GM le font. C'est pas pour vexer hein, que je dise ça, c'est que c'est évident et que c'est une certitude. J'ai juste que si ton identité, comme tu l'as dit, c'est de courir, c'est d'être là-dessus et que tu reviens à Sanders, moi je pense que s'il y a un running back générationnel, ce que ça sous-entend, en tout cas extraordinaire, tu peux aller le chercher s'il correspond à ton identité, puisque tu vas le jeter dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Prends-le parce qu'il va te faire gagner.
Il y a le running back le plus hype depuis Saquon Barkley, qui est Bijan Robinson.
Non.
Bah si, puisque non, c'est. Non, attends, non, attends 2 secondes. Non, c'est ton identité. Tu as besoin d'un mec qui va remplacer Sanders. Et bah, dans ce cas-là,
c'est pas une position importante et c'est plus facile de trouver des running backs qui peuvent contribuer dans un autre tour de draft. Que de trouver un left tackle, un right tackle, un cornerback.
Non, mais je suis d'accord, mais quand tu vois un Jameer Gibbs qui est un peu sosie d'Alvin Kamara et qui va sûrement partir au second tour, si tu as trade back un de tes 2 premiers tours et que tu as du matos au second, Sanders, il avait été pris au second tour, hein, ça ne me choquerait pas qu'au second tour, tu prennes un Jameer Gibbs. Après, ça dépendra de qui on a signé et tout. Mais bon, ne parlons pas de.
Et tu serais même content. Et tu serais même content.
On n'a pas parlé de qui, donc on a un peu parlé de AJ Brown, mais
est-ce qu'on peut parler des coachs offensifs?
Non, mais AJ Brown, est-ce qu'on peut dire que le mec, ils ont fait comme à Madden,
c'est une merveille.
Ils lui ont dit tu vas tout droit, et c'était vraiment très complexe hein, ces tracés contre les Steelers. Hein. Il est allé tout droit. C'est une géodésie comme on appelle ça chez nous. Mais lui, il finit pas dans le gravier.
Dans le mur, ouais. Il finit pas dans le mur. Là.
Non, mais attends, il sait tout droit, mais c'est surtout qu'il remporte, je sais pas moi, 80%, 90% de ses 50-50. C'est surtout qu'il met le tournis à tout le monde, il casse 3 paires de reins. Enfin, et alors, ce qui est curieux, parce qu'il a eu deux.
Est
il
peut incroyable. Avoir,
il peut avoir quelques drops. Il peut avoir quelques drops. Alors, s'il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est sur la passe ratée hier soir qui est trop haute en tout cas de Jalen Hurts. C'est quasiment interception. Ouais. Là où il s'était arrêté la fois d'avant et on lui avait reproché il y a 2 journées, je crois, il va se poursuivre et empêcher l'interception. Bah, ça, j'ai kiffé. Hein.
Ouais, moi aussi.
Non, mais les Titans, ils ont carrément fumé ce que vous voulez. Hein. Le prix payé pour AJ Brown, un premier tour, un troisième tour et 100 millions de dollars sur 4 ans, mais c'est déjà remboursé, obsolète, tout ce que vous voulez.
Ah bah là, il est déjà.
Vas-y, rappelle combien on l'a payé? Premier, troisième tour?
Choix numéro 18 de la draft, un troisième tour et un contrat et une extension de 100 millions de dollars sur 4 ans, en plus de la fin de son contrat rookie.
Sachant que quand il le signe, les gens disent « Ah, oh, vous vous rendez compte, c'est le running back, le receveur le plus cher de la Ligue. » Et depuis, Cooper Kupp, DeAndre Hopkins, Davante Adams, Tyreek Hill, ils sont au-dessus. Donc, tu vois, bon, DeAndre Hopkins, il était déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va continuer à grossir encore et encore.
Mais c'est
encore.
Surtout qu'il a que 20 ans. Oh, je le redis, il a que 25 ans.
25 ans, ouais.
Mais du coup, c'est marrant de noter, puisqu'on parlait de Josh Allen tout à l'heure. Josh Allen aussi a vachement progressé quand ils ont tradé pour Stephen Diggs.
Mais évidemment.
Donc, c'était un jeu de combinaison. Hein. Parce qu'ils ont tradé pour Tyreek Hill.
Bah oui.
T'as donc, besoin d'avoir des receveurs quand t'es un quarterback. Enfin, c'est con, hein, les gars, on va ouvrir une porte ouverte, on l'a défoncé, mais si t'as un très bon receveur quand t'es un très bon quarterback, bah, tu crées des connexions. Hein.
Mais quand tu vois que, par exemple, puisqu'il est souvent mis en valeur, le front office des Ravens, quand tu vois les receveurs qui sont à disposition de Lamar Jackson, bon, heureusement, il a le tight end Andrews qui est énorme, mais tu te dis, putain, mais les mecs, avec tous les receveurs 1 qui étaient dispo pendant l'intersaison, qu'est-ce que vous faites?
C'est vrai, c'est fou.
Et ils ont bazardé Hollywood Brown. Non, mais non seulement ils ont
fait personne,
mais ils ont bazardé savaient pas l'utiliser leur meilleur receveur.
Non, mais ils ne savaient pas l'utiliser. En plus.
Bon, on va être champion, bref. On est obligé de parler des Ravens tellement on domine la ligue.
Les coachs offensifs.
Je trouve que les coachs, parce que je crois que contre les Texans aussi, ça a été le cas, tu l'as dit pour les Steelers. Je crois que contre les Texans, il y a eu un touchdown offensif dans chaque quart-temps. Mm-hmm. Mais je trouve que les coachs, notamment offensifs, ils ont bien travaillé pendant la semaine de repos.
Ouais. C'est vrai, ça.
C'est plus constant pendant le match, les performances. Donc, il n'y a plus 20 points dans le deuxième carton, mais c'est plus constant sur la durée d'un match. Et surtout, on l'a vu notamment sur les short yardage, les 3e et 1, 4e et 1 ou 2, où c'était QB sneak. Donc, maintenant, les défenses s'alignent en fonction de ça. Et là, on a vu des contre les Steelers, on a vu un pitch à Sanders, un fake à Goddard. Ouais. Là, hier, contre les Texans, on a vu d'autres trucs. Donc, je trouve ça pas mal. Du coup, les défenseurs vont dire, oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette fois-ci? Un QB sneak, un pitch, un truc, machin. Et donc, bah, je trouve ça très bien.
T'as raison. T'as raison de souligner, je trouve, l'incroyable belle préparation du match des Steelers. Parce qu'on savait exactement comment les broyer, comme s'ils avaient tout écrit au scénario à l'avance en travaillant.
Ouais. Et je voudrais dire aussi, puisqu'on parlait du calme de Jalen Hurts, moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs, en fait, ils ne s'occupent pas de l'arbitrage, ou très peu. Et c'est Sirianni, qui pète le plomb sur la touche et qui s'occupe de, bah, de passer un savon aux arbitres ou de leur gueuler après, ou peu importe.
Mais donc Sirianni, lui, par contre, moi, je ne veux pas savoir combien d'heures il dort par nuit.
Hein. Ah ouais,
non, il a les poches qu'il a sous les yeux.
Ah, c'est ouf. Ah, toi aussi, tu as remarqué. C'est
ça fait peur, hein. Ouais. Ça fait peur, mais même pour lui, parfois je me dis, mais il dort quoi, mon gars.
Mais il va être coach of the year, il a autre chose à faire.
Moi, de ce que je ne savais pas, c'est qu'a priori, dans sa famille, ils sont à peu près tous coach de football. Donc je pense qu'à mon avis, il doit passer ses journées, ses nuits à préparer les matchs, à regarder des vidéos.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr.
Mais on n'oublie pas que ça devait être un mauvais coach parce qu'à sa première conférence, il a bégayé.
Et qu'il n'appelait pas les jeux offensifs. Ouais. Alors que dans ce podcast, on vous avait tous et trois annoncé que ce serait un grand coach.
J'avais quand même mis 10 sur 10, je crois, pour le.
On avait mis 9 et 10 sur 10, tous et trois. Bon, messieurs, petite parenthèse. Oui, je vais vous laisser un mot de la fin pour ce qu'on aurait oublié. Je tiens à rendre hommage à Monsieur Grégory qui remporte la week 8 en termes de pronostics. Et Monsieur Loïc qui remporte la week 9. Nous sommes donc à 3,5 points pour Greg, 2,5 points pour moi et 2 points pour Loïc. Comme quoi, même Loïc peut gagner. C'est formidable.
Et là, on avait quasiment mis le même score. On n'était pas loin de l'avoir vu. Comme si on savait ce que nos Eagles allaient faire.
Loïc, il a mis 34-17. On a fini à 29-17. Hein. Difficile de faire plus précis quand même.
C'est sûr.
Mais on était tous les trois pas loin. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Non, je voulais demander à Greg s'il était prêt à admettre que nos special teams, c'est de la merde ou pas encore.
Je serais prêt à admettre que les special teams, c'est de la merde le jour où tu admettras que oui, ah putain, quel grand boulot il a fait en draft, en ego et en trade.
Parce que la réalité, c'est que oui, il est monstrueux. Mais nos special teams, c'est de la merde.
Ouais. Non, en fait, je trouve que nos special teams, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est neutre, il se passe rien.
Voilà, non, il y a trop d'actions négatives.
Non, essaye pas. Je t'adore, Greg. T'es super positif dans la vie. Mais là, tu peux pas.
Disons qu'on n'a pas de retourneur, les puns ne sont pas toujours très longs et on prend des pénalités.
On
n'a
pas de retourneur, okay, on n'a pas de
gunner, on a pas de mec. Okay. Et on prend des fakes comme Steelers. Je
crois que comme chaque semaine, je vais vous dire cette phrase qui nous amènera jusqu'au Super Bowl.
Si, c'est ça, notre,
si notre problème, c'est les special teams, alors vivement la bague.
Notre problème principal, c'est la défense de course. Le problème principal, c'est la défense de course. Qui, à mon avis, ne serait pas un problème au Super Bowl contre les Cowboys ou contre les Chiefs ou les Bills, mais qui peut être un problème en playoff NFC contre les Cowboys ou les Niners. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais, même déjà avant, saison régulière, on va se taper Derrick Henry, Saquon Barkley.
Oui, mais alors le mythe du 17-0, qu'on soit.
Non, moi, je crois pas.
Moi, personnellement, alors, c'est pas une question d'y croire ou pas.
Et j'en veux pas.
Je m'en bats les couilles. Mais alors, perde un ou deux, tant qu'on est premier de conférence.
Exactement.
Je m'en bats les couilles qu'on finira par en perdre un.
Moi, ça m'exciterait un peu quand même. Hein.
Par en perdre un contre Cowboys, Titans, Packers. On en lâchera un et on s'en fout.
Non, on en lâchera deux ou trois, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir le momentum à la fin et être pas de blessé avant la dernière, au début des playoffs. Parce que là, il faut le dire, hein, on a quoi, 100% de chance d'être en playoff?
99,9.
Ouais, c'est ça. Surtout vu la faiblesse de la NFC. Parce qu'en vrai, ouais, à part les Cowboys et les 49ers, personne ne peut nous emmerder. Hein.
Personne, après, c'est la NFL. Tu ne peux pas dire personne.
Non, non. Nous embêter sur quoi? Sur le bilan, pas avoir le one seed ou sur les playoffs?
Ah, sur le one seed, je pense que les Cowboys vont nous gratter jusqu'au bout du bout, ça c'est sûr.
Les Vikings,
mais je pense que l'équipe qui peut nous emmerder, moi je crois, non, que... Moi, je crois que c'est les 49ers qui peuvent nous embêter le plus.
Non, les 49ers, ils ont déjà perdu 3 trois... pour... ils ont perdu 3 matchs, je crois, déjà.
4 matchs.
3 ou 4, ouais, mais ils ont, ouais, ils ont récupéré McCaffrey. Moi, je vous
non,
que je...
non, non, en plus, ils doivent jouer encore les Bills ou un truc comme ça, je
non,
crois.
Non, non, les Niners. Je
sais pas, mais tu vas les jouer au premier tour.
Je pense que les Niners, ça va être l'équipe la plus dangereuse en playoff. Par contre, là, ils ont pris trop de retard pour menacer notre first seed.
Là, les, y a, pour moi, y a, statistiquement, il n'y a que 3 équipes qui peuvent nous faire chier. Il y a les Giants, les Cowboys et les Vikings.
Non, les Giants, vous parlez du first seed, vous? Moi, je parlais en playoff, ils peuvent nous embêter jusqu'au bout. Ah, moi, non, les 49ers, avec l'expérience qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent être bien.
Faut moi, je pense que les Vikings, ils peuvent être très emmerdants. Surtout qu'ils viennent de récupérer TJ Hockenson et tout. Je pense que les Vikings, ça peut être chiant.
Si le match il est en prime time, puisque c'est une des excuses pour le calendrier des Eagles. Oh, mais ils ont joué les Vikings en prime time, Kirk Cousins, monsieur. Ouais. Eh ben, mettez-nous Kirk Cousins en playoff en prime time, et puis voilà.
Ah ouais, bien sûr, le bonheur.
On verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à accumuler les victoires. Et on rappelle quand même dans cette course au first seed, puisque c'est d'autant plus important que dans notre folle jeunesse, il y avait 2 équipes qui avaient un bail, maintenant il n'y en a plus qu'une. On a le tiebreaker contre les Vikings.
Ouais, ça c'est définitif.
C'est définitif.
C'est officiel.
Et on sait qu'on ne perdra pas le tiebreaker contre les Cowboys. C'est-à-dire que soit ça sera neutre, soit on gagnera.
Pas forcément.
Non, mais je veux dire, parce confrontation
y a
directe.
Y a, oui.
Non, bien sûr, après, il y a
les autres matchs de division.
Les autres matchs de division, les autres matchs de conférence en cas d'égalité dans la division, etc. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, avoir le tiebreaker contre une équipe qui a une victoire, ça veut dire qu'en gros, tu as 2 victoires d'avance sur tout le monde. Là, aujourd'hui, tu as 2 victoires d'avance sur tout le monde. Ah, c'est quand même un luxe. Hein. Je pense pas que c'est arrivé souvent. Je pense pas que ce soit arrivé souvent en semaine 9 d'avoir une équipe qui a 2 matchs d'avance dans sa conférence. D'ailleurs, c'est la première fois d'histoire Eagles qu'on est à 8-0.
Ouais, mais le problème, c'est qu'on est à 8-0 quand il y a des équipes à 7-1 et 6-2. C'est relou.
6-2.
Ouais, 6-2. C'est un peu relou. Il pourrait être à 4-4 comme tous les autres.
Et avec Washington qui est à 4-4, nous avons la meilleure conférence de l'histoire de
division.
Super Bowl.
Après,
Après 8 semaines, ce qui est quand même assez rigolo.
Ce qui est surtout impronosticable en début de saison. Hein.
Bah, tout le monde disait que Washington, c'est tout pourri, machin, mais ils se battent. Sans 4-4, ouais, ils se battent. Ils sont chiants.
Moi, j'espère juste un truc dans cette NFC, c'est que les Seahawks, ils mériteraient d'accrocher une wild card quand même. Franchement, avec ce qu'ils montrent, vu ce qu'on attendait en début de saison, on disait que c'était des candidats au first pick. J'aimerais bien les voir accrocher une wild card en 6e.
Franchement, Pete Carroll, c'est costaud. Hein. Être capable d'emmener autant de générations, ils perdent Russell Wilson. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais mettre un petit tacle à Loïc. Tiens, c'est gratos en fin de podcast.
Je
voulais pas de Jalen Hurts, je voulais Russell Wilson. Pour 160 millions avec ses genoux morts. Voilà. Il aurait fallu prendre Pete Carroll, hein, parce que c'est surtout lui le succès de Russell Wilson. Bref, quand tu vois ce qu'il fait avec l'autre génie, là, moi, il m'impressionne encore, hein, papy. Et je dis papy avec beaucoup d'affection, parce que c'est une vraie personne âgée
c'est le plus vieux coach de la ligue et de très très loin, puisqu'il a 74 ans. Il doit avoir facilement 3 ou 4 ans de plus que Bill Belichick. Non, il a 71 ans. Et attendez, je vais vous dire en direct, Bill Belichick, il a
67, 66.
Ah non, 70. Ah, ils n'ont qu'un an de différence. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que physiquement, j'espère ressembler à Pete Carroll, hein, parce que, putain, à 71 ans, vous avez vu comment il est, Pete Carroll,
hein. Ouais, c'est impressionnant. Mais en tout cas, Loïc voulait Russell Wilson à la place de Jalen Hurts. Je le dis pour les futures générations qui écouteront ce podcast.
Bon, en tout cas, on essaiera de revenir la semaine prochaine pour une petite preview du match contre Washington. Que évidemment ils nous ont foutu en Sunday night hein, parce que pourquoi pas, ou Monday night, Monday night parce que pourquoi pas hein, Washington,
mais sans Carson, pas de retour de Carson Wentz à Philadelphie quoi.
Et non, Tyler Heinicke, du coup ils ont une chance de gagner.
En tout cas il y a une chance que McLaurin nous fasse chier tout le match hein.
Enfin, en tout cas on fera une petite preview pastille un peu comme on avait fait pour les Steelers, parce que là c'est vrai qu'on a d'habitude, on essaye de faire tous les mardis pour ne pas perdre des auditeurs. Mais alors là, entre la bye, le match du jeudi, etc., ils ne nous ont pas facilité les choses. Donc, on va essayer de reprendre un rythme normal.
On joue quand ? Monday night, c'est vrai.
Et pour ma part, je dis aux gens, je serai à Munich le week-end prochain. Donc, si vous y êtes, n'hésitez pas à me MP... Je serai avec Tristan Henry et Tiffany Amis de TDA. Et si vous voulez boire un verre avec nous, vous nous le direz. Oui.
Juste le week-end du 11 au 13 novembre, du coup.
Oui.
Non, mais oui. Pas ce week-end prochain, mais si tu sors l'épisode. Enfin, bref.
Mais attends, est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'en français, le prochain, c'est pas celui qui arrive, mais c'est celui d'après. Dimanche en 8. Bon, dimanche en 8.
Voilà. En tout cas, moi, n'hésitez pas, je serai à Arcachon, donc si vous êtes dans le coin, c'est ce que tout le monde raconte, ça lac.
Écoute, c'est pas tous les jours qu'on va voir Tom Brady. Non, et puis pour découvrir Tom Brady, c'est sympa. Et puis je me dis que comme c'est la première fois en Allemagne, il y a moyen que le samedi fasse des animations sympas. On verra.
Non, mais c'est vrai.
Je vais dépenser 500 euros en goodies, 1000 euros.
Mais bien sûr. Et quoi que cela dit, moi, au Tottenham Hotspur, j'ai dépensé très peu, rien. J'ai été extrêmement raisonnable.
Franchement, j'ai cru que tu allais nous dire que j'ai dépensé 5000 balles.
Non, mais je pensais vraiment que je partais dans le... En vrai, je partais dans la zone foutue. Et à l'arrivée, non. Je mûris, je pense.
C'est beau. Tu es un homme qui a changé. Bon, mais messieurs, on se perd en blablatage. C'est drôle. Donc, ça veut dire que c'est le moment de s'en aller. Merci Loïc, merci Greg, merci à vous tous de nous écouter de plus en plus nombreux.
Merci Victor.
Cette saison, vraiment, c'est assez impressionnant.
Donc, le succès appelle le succès. Hein.
N'hésitez pas, installez-vous, prenez un petit verre en nous écoutant, un verre de jus d'orange, évidemment. Et en tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Bon week-end.
Ciao, ciao.
Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.